Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Campus Tours. C'est Romain et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Le Fil de l'Actu, le voyage philosophique à travers l'actualité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et pour évoquer le sujet du jour, nous allons partir d'un chiffre. Ce chiffre clé, c'est 19 000. 19 000 comme le nombre d'Iraniens arrêtés pour s'être opposés au pouvoir en participant à des rassemblements, des manifestations ou même en dansant. Vous l'aurez donc deviné, le fait d'actualité dont nous allons parler aujourd'hui est le soulèvement de la population iranienne dans un pays où les femmes ont l'obligation de se couvrir les cheveux et n'ont pas le droit de porter des vêtements courts ou serrés. Vous avez certainement dû tomber sur des vidéos qui ont beaucoup tourné sur Internet où l'on peut voir des femmes jeter leur voile au feu comme signe de protestation envers la politique menée par le régime autoritaire iranien qui n'a pas hésité à tuer en répression. Le pays vit donc, et ce depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022, une période de révolution inédite dont la lutte principale se résume dans ce slogan scandé par les iraniennes « Femme, vie, liberté ». Cette grande vague de contestation, soutenue par ce slogan, implique de s'interroger sur une grande notion philosophique qui est au cœur de l'actualité iranienne, je parle bien entendu de la liberté. Car il s'agit bien ici de la liberté des femmes et de la liberté des iraniennes. Or, lorsqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que la liberté, il est toujours difficile de donner une réponse bien précise. La liberté est une notion floue, parfois utilisée sans en comprendre le sens. Nous allons donc voir aujourd'hui que la liberté est une notion philosophique qui, lorsqu'on l'étudie, permet de mieux saisir les enjeux de cette révolution iranienne. Pour commencer, il nous faut délimiter ce terme de liberté, en établir les contours, car c'est une notion assez vague. Lorsqu'on va demander aux gens ce qu'est la liberté, la plupart vont nous répondre qu'il s'agit de faire ce qu'on veut, quand on veut et sans contrainte. Ça, c'est une idée très importante et très intéressante. La liberté s'oppose à la contrainte. La contrainte, elle peut être matérielle, comme avoir un mur devant soi. Si j'ai un mur devant moi, je ne peux pas passer, je ne suis pas libre de passer. Mais la contrainte peut être aussi immatérielle. Par exemple, c'est le cas avec les lois politiques, qui relèvent de la légalité. Ces lois, elles sont immatérielles, il n'y a rien de physique, mais elles peuvent nous contraindre dans nos actions. Si par exemple, j'ai le désir de tuer quelqu'un, de réaliser un meurtre, eh bien la loi m'y contraint, pas matériellement, mais immatériellement. La loi est donc le plus souvent vécue comme une contrainte pour les individus, et ça c'est important. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pour disposer d'une liberté, il faut obéir à des lois. Par exemple, si vous voulez obtenir une augmentation de la part de votre employeur, vous allez devoir travailler dur, être à l'heure, rendre les dossiers dans les temps, etc. C'est donc l'obéissance aux lois de l'entreprise qui vous rendra libre d'obtenir une augmentation. Ainsi, le rôle de la loi, il est de nous protéger et de nous permettre, si on la respecte, d'obtenir une augmentation. La loi permet d'arriver à ses fins, s'ils sont légitimes, bien entendu. À ce moment précis, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut quand on veut, si on se permet de ne pas venir au travail, si on rend des dossiers en retard, on est plus libre d'obtenir une augmentation. Et il y a justement un auteur dont j'aimerais vous parler, car il explique très bien cette idée. Il s'agit du célèbre philosophe néerlandais du XVIIe siècle, Spinoza. Spinoza qui affirme justement que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, et qu'au contraire, la loi permet de protéger ma liberté. Pour comprendre cet argument, il faut partir de la citation suivante, dans laquelle Spinoza compare la situation d'un esclave à celle d'un individu soi-disant libre. Je cite « On pense que l'esclave est celui qui agit par commandement, et l'homme libre celui qui agit selon son bon plaisir. Cela cependant n'est pas absolument vrai, car en réalité, être captif de son plaisir et incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c'est le pire esclavage. » Et la liberté n'est qu'à celui qui, de son entier consentement, vit sous la seule conduite de la raison. » Fin de citation. Alors, cette citation assez complexe, tirée du traité théologico-politique de Spinoza, elle soulève une idée très simple. Spinoza nous dit tout simplement qu'un homme pouvant agir comme il le souhaite, en réalisant tous ses désirs et en faisant tout ce qui lui plaît, va devenir lui-même esclave de son propre plaisir, en réalisant des choses qui ne lui sont pas utiles. Si je vous demande de faire ce que vous voulez, il est quand même très peu probable de vous voir faire quelque chose qui soit vraiment utile pour vous. Il est peu probable que vous usiez de votre raison, que vous réfléchissiez pour agir, car vous allez seulement agir en fonction des premiers plaisirs qui vous passent par la tête. Eh bien Spinoza nous dit que ces individus qui agissent en ne suivant que leurs plaisirs ne sont pas libres, car ils ne suivent pas leur raison, ils sont esclaves de leurs propres plaisirs. Et à contrario, pour la situation de l'esclave, on peut se dire que sous contrainte, il n'est pas libre. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il nous arrive de devoir faire des choses qui nous déplaisent, mais qui nous sont utiles et qui nous rendront libres. Bien sûr, ici, le terme d'esclave, il n'est pas à prendre dans son sens le plus péjoratif. Ce terme, il est plutôt utilisé pour décrire les personnes qui font quelque chose qui ne leur plaît pas, mais dans un but réfléchi qui leur est utile. Par exemple, vous vous levez tous les matins, vous allez étudier à la fac, c'est difficile, vous ne suivez pas vos désirs, mais vous serez libre de réussir vos examens et de réussir votre année. Dans ce sens, être libre, c'est plutôt agir pour ce qui nous est utile en utilisant notre raison. Spinoza va développer un peu son propos et vous allez voir le lien avec l'actualité dont je vous ai parlé précédemment. Spinoza nous dit que nous pouvons obéir à des lois en nous sentant libres et que obéissance ne signifie pas forcément esclavage. L'obéissance ne signifie pas forcément esclavage car cela dépend du but de cette obéissance. Si cette obéissance, elle a pour objectif de servir les intérêts d'un maître qui commande tout, alors oui, c'est de l'esclavage. Mais si cette obéissance, elle a pour but de servir ses propres intérêts, alors ce n'est pas de l'esclavage. Par exemple, si vous obéissez à vos professeurs, vous servez vos propres intérêts car vous avancez plus vite dans le cours, vous êtes attentif et vous serez libre de réussir vos examens. Vous avez donc tout intérêt à obéir à vos professeurs car cela vous permettra d'être libre sans faire de vous un esclave. Encore une fois, c'est l'obéissance qui rend libre. Et si personne n'obéissait aux professeurs, si personne n'obéissait aux lois, eh bien je vous laisse imaginer le chaos que cela générerait. Les plus faibles se feraient écraser car il n'y aurait plus de règles, ces mêmes règles qui garantissent ma liberté de réussir aux examens. Et là, je vous vois venir, vous vous dites très certainement, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter lui? Il est en train de sous-entendre que si les Iraniennes obéissaient au pouvoir, elles seraient plus libres? Eh bien, justement, non. Parce que justement, les Iraniennes, elles obéissent à des lois qui ne vont pas dans leurs propres intérêts. Et cette même loi, elle ne vient pas d'elles. Chez nous, dans une démocratie, le peuple fait la loi en élisant les députés. Le peuple y suit ses propres lois qui convergent avec ses propres intérêts. Tandis que les Iraniennes, elles n'ont pas vraiment fait la loi. Elles font face à des lois qui ne vont pas dans leur propre intérêt. Et c'est quand un peuple suit des lois dont il ne se sent pas la racine, dont il ne se sent pas responsable, qu'une révolution peut éclater. Dans ce cas, les lois ne rendent pas les Iraniennes libres, car ces lois ne proviennent pas du peuple, comme dans une démocratie, en théorie bien sûr. La question suivante se pose, comment les Iraniennes peuvent-elles se sentir libres alors qu'elles sont sous la contrainte d'une loi qui ne leur est pas utile, qui ne les sert pas? Là est toute la question. Alors, on pourrait répondre que si l'on faisait que de suivre sa propre loi, ça serait le bazar. Eh bien, regardons la situation dans une démocratie. Le peuple suit sa propre loi qu'il a lui-même créée, et cela lui permet de protéger sa liberté. Bien sûr, tout ça est théorique et ça ne s'applique pas à un pays en particulier, mais le modèle démocratique en théorie montre bien qu'un peuple qui suit ses propres lois, bah, ce n'est pas un modèle qui enclenche un bazar complet. Bien entendu, et ça c'est important de le dire, les propos de Spinoza ne s'appliquent pas directement ni concrètement à la situation en Iran. Mais on peut tout de même y voir un lien fort et ça nous permet de mieux comprendre les enjeux des revendications des Iraniennes. Il y a un mot et son étymologie qui est très intéressant pour ce sujet, dans ce cas-là, c'est le mot « autonome ». Autonome, ça provient du grec « autonomia » et dont le préfixe « auto » renvoie à soi-même et le suffixe « nomia » renvoie aux règles, à la loi. Être autonome, c'est donc suivre sa propre loi, mais encore une fois, ce n'est pas suivre tous ses désirs inutiles, c'est plutôt suivre ce qui nous est utile en usant de notre raison. Il faut savoir également que Spinoza, c'est un philosophe déterministe. Ça signifie qu'il pense que tous les choix que nous faisons, tous les choix qui témoignent de notre liberté, ils sont déterminés par des causes nécessaires, des causes irréversibles de la nature. Il y a cette idée derrière le déterminisme de Spinoza qui est de dire « il y a une relation nécessaire entre une cause et son effet ». C'est comme, pour prendre un exemple très simple, lorsque votre doigt fait tomber le premier domino, nécessairement, le dernier domino va tomber si vous les avez bien alignés. La cause a son effet et vous n'avez pas agi sur le dernier domino. Ce sont les lois de la nature, en l'occurrence la gravité, qui a fait tomber le dernier domino. Et bien pour Spinoza, le déterminisme, ça ne s'applique pas qu'aux dominos, ça s'applique également au choix des êtres humains, qui sont, selon lui, déterminés par des causes naturelles et nécessaires, qui ne peuvent pas être autrement. Ça, c'est pour un petit aperçu de ce qu'est le déterminisme en philosophie, mais il peut également s'appliquer dans d'autres domaines, hein, dans la sociologie par exemple, on parle beaucoup de déterminisme social. Pour en finir avec Spinoza, je vais vous lire un petit extrait de son ouvrage « Autorité théologique et politique » publié en 1670. Je cite « Partons des principes de toute organisation en société démontrée plus haut. Il s'ensuit, avec la plus grande évidence, que le but final de l'instauration d'un régime politique n'est pas la domination, ni la répression des hommes, ni leur soumission au joug d'un autre. Ce à quoi l'on a visé par un tel système, c'est à libérer l'individu de la crainte de sorte que chacun vive, autant que possible, en sécurité. En d'autres termes, conserve au plus haut point son droit naturel de vivre et d'accomplir une action sans nuire ni à soi-même, ni à autrui. Non, je le répète, le but poursuivi ne saurait être de transformer des hommes raisonnables en bêtes ou en automates. Ce qu'on a voulu leur donner, c'est plutôt la pleine latitude de s'acquitter dans une sécurité parfaite des fonctions de leur corps et de leur esprit. Après quoi, ils seront en mesure de raisonner plus librement. Ils ne s'affronteront plus avec les armes de la haine, de la colère, de la ruse, et ils se traiteront mutuellement sans injustice. Bref, le but de l'organisation en société, c'est la liberté. Fin de citation. Voilà pour ce petit extrait de Spinoza dans lequel il nous rappelle qu'à l'origine, les lois et la mise en place d'un gouvernement démocratique, hein, en théorie, eh bien ça sert l'intérêt du peuple qui va protéger sa liberté en obéissant. Et on a bien vu, et on le rappelle, hein, c'est parce que le peuple se sent moteur des lois et de la démocratie qu'il se sent libre. Une situation, on l'a dit, hein, qui est loin d'être en place en Iran. Voilà pour un petit aperçu de Spinoza et du déterminisme, mais avant de continuer cette émission, je vous propose de rendre hommage à la population iranienne en écoutant un petit extrait d'une musique iranienne. Ça s'appelle Sinaï, c'est du collectif Kola Ensemble, et on se retrouve juste après.
Thank you.
Après cette petite pause musicale, je voudrais vous parler d'une théorie qui a pour principale notion la liberté et qui, même si elle ne se raccorde pas directement avec l'actualité dont cette émission fait l'objet, évoque très bien la question de la liberté que nous avons déjà abordée avec Spinoza. Cette théorie, c'est la théorie existentialiste. Cette théorie, elle est portée par plusieurs auteurs, notamment Jean-Paul Sartre, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe français contemporain renommé qui a écrit des ouvrages majeurs dans la théorie existentialiste, comme L'être et le néant par exemple. Cette théorie, elle apporte une conception de la liberté bien différente de celle de Spinoza. Alors qu'avec Spinoza, on l'a vu, on a le droit à un déterminisme qui pèse sur nos actions et nos choix, avec Sartre, on a plutôt le droit à un libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept, le libre arbitre ? Pour comprendre ce concept et la vision de la liberté de Sartre, nous allons partir d'une phrase restée célèbre, je cite « L'existence précède l'essence ». Cette phrase signifie simplement que chez l'homme, chez l'espèce humaine, l'existence vient avant l'essence. Alors, l'essence dont on parle, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le carburant. L'essence d'une chose, c'est plutôt son être profond. L'essence, c'est ce qui constitue la nature permanente d'une chose. Pour comprendre, prenons un exemple d'un objet tout simple, une chaise. Une chaise, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, quel que soit le matériau utilisé, elle a quatre pieds et un dossier. C'est son invariant, c'est ce qui constitue sa nature profonde. On peut le faire avec tout autre objet, comme par exemple un téléphone. Le téléphone, il a forcément un écran, qu'il soit tactile ou non, le téléphone a forcément un écran et un bouton pour l'allumer. C'est son essence. On peut le faire avec tout autre objet, mais la différence, c'est qu'avec l'homme, on ne peut pas le faire. Les hommes, contrairement aux chaises, ils sont multiples et variés. Chaque humain est unique, chaque humain a une histoire particulière, et chaque humain est doté d'une conscience. Ainsi, il existe avant d'avoir une essence. L'homme existe avant de se définir lui-même. On peut dire en quelque sorte que l'homme choisit sa nature profonde, c'est à lui de façonner sa propre essence, sa propre raison d'existence. Alors que la chaise, quand elle est fabriquée, elle restera la même toute sa vie, l'homme évolue, il vieillit, ses goûts changent, il se construit une personnalité. Et là est le lien avec le concept de libre arbitre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le libre arbitre, pour vous le dire simplement, c'est la capacité à se déterminer soi-même, à agir et à penser par soi-même. Vous comprenez mieux maintenant l'opposition que l'on peut faire avec le déterminisme de Spinoza, qui affirmait que nos actions étaient déterminées par les lois de la nature. Avec Sartre, on n'a pas du tout ça. Sartre nous dit que nos actions sont le résultat de nos choix, qui déterminent notre essence et ce que l'on est. La phrase « l'existence précède l'essence », elle signifie simplement que l'humain existe d'abord et qu'il va ensuite donner du sens à ses actes et à sa vie. Après avoir dit que l'homme se façonnait lui-même, car pour lui l'existence précède l'essence, Sartre va pousser son raisonnement et c'est d'ailleurs ce qui a pu lui être reproché. Ce que nous dit Sartre, c'est qu'en fonction des choix que nous faisons, nous ne sommes pas les mêmes. Chaque choix que je fais en élimine un autre. Par exemple, si je prends une glace à la vanille, la possibilité de prendre celle au chocolat et disparaît. J'ai fait un choix qui détermine ma personnalité. Et ce choix, il modifie mon essence. Mon essence, elle change constamment à chaque choix que je fais. Chaque choix que je fais, chaque direction que je prends, tout ça détermine ce que je suis. C'est ça la particularité de l'homme. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Il a le choix d'être ce qu'il veut. C'est le libre arbitre. Ainsi, Sartre nous dit que nous sommes responsables de nous-mêmes. Puisque nous pouvons déterminer notre propre essence, notre propre raison de vivre, nous sommes entièrement responsables de nos choix. Nous avons la lourde charge, la lourde responsabilité de donner un sens à notre vie. Sartre va assez loin dans son raisonnement, c'est assez poussé, je vous l'accorde, et on a déjà pu lui reprocher cela dans le passé. Mais qu'en est-il de la liberté et du lien avec l'actualité en Iran, me diriez-vous ? Reprenons notre actualité. De nombreux Iraniennes et Iraniens protestent contre la répression et contre les règles de leur propre pays. Ils demandent donc plus de liberté. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de choix, de ne pas pouvoir déterminer leur propre personnalité, de ne pas pouvoir définir leur essence. Les Iraniens ont l'impression de ne pas être maîtres d'eux-mêmes en quelque sorte. Tout cela est quand même bien embêtant pour l'espèce humaine pour qui normalement l'existence précède l'essence, pour qui normalement elle a le choix, l'espèce humaine, de se définir. Et bien pour les Iraniens, il est très compliqué de définir sa propre essence, de faire des choix libres face à un régime autoritaire. On peut donc y voir un danger, hein, l'homme, lorsque sa raison d'être et sa personnalité sont déterminées par autre chose que par lui-même, il peut se révolter. Voilà pourquoi les Iraniens scandent et rêvent de liberté. Leurs choix sont restreints, ils n'ont pas l'impression d'être entièrement responsables d'eux-mêmes. Ils voient les lois et le régime comme une limitation de leurs possibilités, car ils ne peuvent pas devenir ce qu'ils veulent s'ils ne se révoltent pas. Bien sûr, je vous l'accorde, ce que dit Sartre ne s'applique pas directement et précisément à la situation en Iran. Tout comme Spinoza, il est important de prendre ses arguments et leur application à l'actualité avec des grosses pincettes. Cependant, tenter d'appliquer des arguments philosophiques à l'actualité, ça permet de mieux comprendre les enjeux de cette dernière, les enjeux de la révolte d'une partie du peuple iranien. Et dire que les Iraniens se révoltent pour plus de liberté, sans comprendre pourquoi ils se révoltent et quelle liberté ils demandent, c'est un peu inutile. Pour en finir avec Sartre, je vais vous lire un extrait qui résume bien la pensée de Sartre et qui ajoute aussi un petit élément, mais cet extrait il ne provient pas de l'œuvre de Sartre. J'ai plutôt choisi de vous lire un extrait d'un ouvrage un peu plus simple à comprendre, car il faut avouer que Sartre il a un style d'écriture assez complexe. Je vais donc vous lire un extrait de l'ouvrage Sartre, Désir et Liberté, coordonné par Renaud Barbara, et qui réunit les textes de plusieurs auteurs. Les quelques lignes que je vais vous lire, elles sont de Philippe Cabestan, qui évoque l'importance du choix et il évoque aussi la grande limite de l'homme, il évoque la grande finitude de l'homme. Je cite. Sartre rappelle à plusieurs reprises, sans toutefois consacrer à ce point de long développement, que l'homme est une réalité finie, non pas en raison de sa mortalité, mais parce que l'acte même de liberté est assomption et création de finitude. En d'autres termes, toute liberté est nécessairement finie, dans la mesure où l'élection d'un possible implique la néantisation de tous les autres. Choisir, c'est nécessairement renoncer. Par exemple, lire tel livre de tel auteur, c'est renoncer à lire tous les autres livres de cet auteur, comme des autres auteurs, ainsi que renoncer à toute autre forme d'activité. Bref, nous n'avons qu'une vie. Nul ne peut être mille Socrates. Ainsi, non seulement je n'ai pas le choix du choix, mais en outre je n'ai le droit qu'à un seul choix. Telle est pour Sartre l'unique véritable limite ou finitude de ma liberté. Fin de citation. Ce petit texte y rappelle l'exemple que j'avais utilisé au sujet de la glace. Quand on choisit celle à la vanille, toutes les autres possibilités disparaissent. Un seul choix est possible, et c'est ça qui limite ma liberté. Alors, cette émission, elle nous aura quand même fait comprendre les enjeux de cette révolte. Elle nous aura permis de comprendre, grâce à Spinoza, que les Iraniens, ils ne se sentent pas libres car ils doivent obéir à une loi qui les contraint, qui ne va pas dans leurs intérêts nécessaires, à savoir s'habiller comme ils le souhaitent. Et avec Sartre, on a vu que la liberté au sens du libre arbitre, à savoir la possibilité de choisir et de se déterminer sans restriction particulière, c'est pas vraiment une situation que connaît le peuple iranien. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le nouvel an perse et les fêtes de ce nouvel an en Iran, elles ont été marquées par des feux d'artifice accompagnés par des slogans qui scandaient la chute du régime. Ces événements semblent raviver un mouvement qui semblait un peu s'éteindre ces derniers temps, montrant ainsi que le combat n'est pas fini pour des milliers d'Iraniens qui ne perdent pas espoir. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau fil de l'actu. À bientôt, encore merci.